Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 33, au but. En quelques minutes, la nouvelle fit le tour du village. Une douzaine d'embarcations chargées d'hommes partirent pour la grotte de MacDougall. Le bac, bondé de curieux, suivait. Tom était dans la barque de M. Thatcher. Aussitôt ouverte la porte de la grotte, un triste spectacle s'offrait au regard dans le demi-jour de l'entrée. Joe l'Indien était étendu par terre, mort. Son visage tout contre la porte. Ses yeux fixes témoignaient que jusqu'au dernier moment, le retour au monde extérieur avait été sa seule préoccupation. Tom était ému malgré tout, car il savait par sa propre expérience par quelles affres le misérable avait dû passer. Il avait pitié. Mais il éprouvait un soulagement, un sentiment de sécurité, tel qu'il comprit à ce moment-là mieux qu'il ne l'avait jamais fait sous quelle terrible menace il avait vécu depuis le jour où il avait témoigné devant le tribunal contre ce sinistre coquin. Le couteau à grande arrêt de Joe était là, tout près, la lame cassée en deux. Le misérable avait opiniâtrement essayé, tant du tranchant que de la pointe, d'entamer la poutre maîtresse de la porte. Le roc l'en avait empêché, vains efforts d'ailleurs, car au dehors la roche naturelle formait une sorte de seuil. Sur cette roche très dure, le couteau n'avait pas eu de prise. C'est le couteau seul qui en avait souffert. La roche eût-elle permis à Joe d'arriver à ses fins, que le travail de l'Indien aurait été inutile. Car en admettant que la poutre eût été coupée, Joe n'aurait pas pu passer sous la porte, et il le savait. Il n'avait endommagé la porte que pour faire quelque chose, pour passer le temps et donner un but à ses facultés surtendues. Il était habituellement possible de trouver, dans les anfractuosités du rocher, une demi-douzaine de bouts de chandelle, laissés là par les touristes. Mais cette fois, il n'y en avait plus. Le prisonnier affamé les avait cherchés et les avait mangés. Il avait même mangé plusieurs chauves-souris qu'il avait réussi à attraper et n'en avait laissé que les griffes. Cela ne l'avait pas empêché de mourir de faim. Non loin de là, une stalagmite, formée par l'eau goûtant lentement de la stalactite au-dessus d'elle, s'était développée au cours des âges. Le captif avait cassé la stalagmite. Sur le tronçon, il avait mis une pierre qu'à force de patience, il avait évidée pour recueillir la précieuse goutte qui tombait toutes les 3 minutes avec une régularité de chronomètre. De quoi remplir une cuillère à café toutes les 24 heures. Cette goutte tombait déjà au moment de la construction des pyramides, au moment de la chute de Troie, à l'époque de la fondation de Rome, du début de l'ère chrétienne, du débarquement en Angleterre de Guillaume le Conquérant, de la traversée de Christophe Colomb et du massacre de Lexington. À l'heure actuelle, elle tombe encore. Elle continuera à tomber quand tout ce dont nous nous occupons aujourd'hui aura sombré dans l'après-midi de l'histoire, le crépuscule de la tradition et la nuit noire de l'oubli. Tout ce qui se passe est-il combiné en vue d'une action future? Cette goutte n'est-elle tombée régulièrement depuis 5000 ans que dans le but de désaltérer un jour cet être humain? D'ici 1000 ans, cette goutte aura-t-elle un autre rôle à jouer? Qu'importe. Il y a déjà de nombreuses années que le malheureux a évidé cette pierre pour recueillir les précieuses gouttes d'eau. Aujourd'hui, c'est devant cette misérable pierre, devant cette eau qui tombe si lentement, que le touriste s'arrête le plus volontiers. À l'échelle des curiosités de la grotte de MacDougall, la coupe de Joe l'Indien vient en tête. Le palais d'Aladin lui-même ne peut pas rivaliser avec elle. On enterra Joe l'Indien près de l'entrée de la grotte. De 3 lieues à la ronde, affluèrent en bateau ou en carriole les curieux venus des villes et des hameaux. Ils avaient pris leurs enfants avec eux, ils avaient apporté leurs provisions, et ils se déclarèrent presque aussi contents de voir enterrer Joe l'Indien qu'ils l'auraient été de le voir pendre. Ces funérailles mirent un terme à la circulation d'une pétition, adressée au gouverneur et demandant la grâce de Joe l'Indien. Cette pétition portait quantité de signatures. Un grand nombre de comités s'étaient formés, où l'on avait beaucoup pleuré, où l'on avait dépensé des trésors d'éloquence, sans compter un comité de vieilles femmes éplorées qui avait pour mission de se rendre en grand deuil auprès du gouverneur, de l'apitoyer par leurs larmes, de l'adjurer de faire preuve d'une mansuétude qui l'eût couvert de ridicule, et somme toute de fouler aux pieds les devoirs de sa charge. On accusait Jolindien d'avoir tué 5 citoyens de ce village, mais qu'importe. Eût-il été Satan, personne, que d'innombrables faibles d'esprit se seraient offerts à signer une pétition pour qu'on lui pardonne, et à arroser cette pétition de leurs larmes intarissables. De bonne heure, le lendemain de l'enterrement, Tom emmena Huck dans un endroit isolé pour parler affaires. Par le Gallois et par Madame Douglas, Huck avait appris, dans le détail, l'aventure de la grotte. Mais il y avait une chose dont Tom était sûr que personne n'avait parlé. Celle-là même dont il voulait discuter. Quand la conversation vint sur ce terrain, la figure de Huck s'allongea. « Je sais ce que c'est, » dit-il. « Tu as été au numéro 2 et tu n'as rien trouvé que du whisky. Personne ne m'a dit que c'était toi. Mais aussitôt que j'ai entendu parler de whisky, je m'en suis douté et j'ai compris que tu n'avais pas l'argent, sans quoi tu te serais arrangé pour me le faire savoir en douce. Tom, quelque chose me dit que nous ne mettrons jamais la main sur ce magot. Tu n'y es pas, Huck. Il n'est pas question du bistrot. Tu te souviens qu'il était ouvert le samedi, le soir du pique-nique, et que tu devais être de garde cette nuit-là? Ah oui, bien sûr. Il me semble qu'il y a un an de ça. C'est cette nuit-là que j'ai suivi Jolindien jusque chez Madame Douglas. C'est toi qui l'as suivi? Oui, mais il ne faut pas que ça se sache. Je parierais que Joe a laissé des copains à la traîne et je n'ai pas envie qu'il me cherche des poux dans la tête. Sais-tu bien que sans moi, il serait maintenant au Texas? Sous le sceau du secret, Huck raconta alors toute l'aventure à Tom, qui ne savait que ce que le Gallois lui en avait dit. « Pour moi, » fit Huck, revenant au nœud de l'affaire, « celui qui a repéré le whisky a aussi barboté le pognon. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il nous passe sous le nez, mon vieux. »« Huck, l'argent n'a jamais été au numéro 2. »« Quoi ?» Huck dévisagea son camarade. « Tom, aurais-tu retrouvé la piste ?» Écoute bien, Huck. L'argent est dans la grotte. Les yeux de Huck flamboyèrent. Répète voir. L'argent est dans la grotte. Tom, foi d'Indien, parles-tu sérieusement ou est-ce que tu me fais marcher? Huck, je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Veux-tu venir avec moi là-bas et m'aider à le sortir?
Je comprends que je veux.
Tu me garantis que tu connais bien le chemin et qu'on ne se perdra pas? Huck, ça ira comme sur des roulettes. Hurrah! Qu'est-ce qui te fait penser que l'argent est... Huck, mon vieux, attends que nous y soyons. Si on ne le retrouve pas, je te promets de te donner mon tambour et tout ce que j'ai au monde. Top là! Quand est-ce qu'on y va? Tout de suite, si tu veux. Tiendras-tu le coup? Est-ce que c'est loin dans la grotte? Il n'y a guère que 3 ou 4 jours que je suis sur mes quilles. Je peux faire 1 ou 2 kilomètres. Mais plus, je ne crois pas. Par le chemin que tout le monde prendrait, sauf moi, il y en a à peu près pour 8 kilomètres. Mais il y a un raccourci que je suis seule à connaître. Je t'y emmènerai directement en bateau. J'amarrerai le bateau là-bas, et pour le retour, je m'en charge à moi tout seul. Tu n'auras même pas à lever le petit doigt. Alors, allons-y tout de suite. Entendu. Il faut emporter de quoi manger, de quoi fumer, des sacs, 3 cordes de cerf-volant, et puis de ces nouveaux machins qu'on appelle des allumettes de sûreté. Ça m'a joliment manqué de ne pas en avoir quand j'y étais l'autre jour. Peu après-midi, les deux gamins empruntèrent le canot d'un riverain absent et se mirent en route. Après avoir dépassé de quelques kilomètres le vallon de la grotte, Tom dit « Regarde, depuis le vallon, cette berge n'a pas changé. Pas de maison, pas de chantier, rien que des buissons. Mais vois-tu le point blanc ?» Juste après cet éboulis, c'est un de mes repères. C'est là que nous allons mettre pied à terre. Ils accostèrent. Eh bien, Huck, de là où tu es, tu pourrais passer une canne à pêche dans le trou par lequel je suis sorti. Est-ce que tu le vois? Huck chercha, mais ne trouva rien. Alors Tom alla fièrement, droit sur un épais fourré de sumac et dit « Eh bien, c'est là, mon vieux. Regarde-moi ça. Comme trou, dans tout le pays, on ne fait pas mieux.
surtout discrétion, hein. J'ai toujours voulu être un brigand, mais il me fallait un repère. Et le problème, c'était de le trouver. Nous l'avons maintenant, et nous n'en dirons rien à personne. Excepté, bien sûr, à Joe Harper et à Ben Rogers. Parce que, naturellement, il faut que nous soyons une bande. Sans ça, de quoi est-ce que ça aurait l'air? La bande de Tom Sawyer, ça sonne bien. Qu'est-ce que tu en dis? Magnifique, Tom. Et qui allons-nous voler? Oh, n'importe qui. On arrête au passage tous les gens qui vous tombent sous la main. C'est comme ça qu'on fait. Et on les tue? Pas forcément. On les mettra à l'ombre dans la grotte jusqu'à ce qu'ils payent une rançon. Qu'est-ce que c'est que ça, une rançon? Ben, de l'argent. Tu leur demandes tout ce qu'ils peuvent donner, eux, et quelquefois leurs amis avec. Et quand tu les as gardés à l'ombre pendant un an, s'ils ne payent pas, on les tue. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Mais on ne tue pas les femmes. On les met sous clé, on ne les tue pas. Elles sont toujours belles et riches, et elles ont une peur bleue. On leur prend leur montre et tout ce qu'elles ont, mais quand on leur parle, c'est toujours avec la plus exquise politesse et chapeau bas. Il n'y a pas plus poli qu'un brigand. Tous les livres te le diront. Et puis les femmes en pincent pour toi. Et quand elles sont restées dans la grotte pendant 8 ou 15 jours, elles cessent de pleurer. Et il n'y a plus moyen de les faire partir. Si on les chasse, elles reviennent. C'est comme ça dans les bouquins, mon vieux. C'est rudement épatant. C'est encore plus batte que d'être pirate. Oui, par certains côtés. Parce qu'on est plus près de la maison, des cirques et de tout ça. Entre-temps, les deux amis avaient pénétré dans le trou, Tom montrant le chemin. Après avoir réussi, non sans mal, à parvenir jusqu'au fond de la galerie d'entrée, ils assujettirent une extrémité de leur ficelle qu'ils déroulèrent au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ils avancèrent bientôt à la source. Tom eut un frisson rétrospectif. Il montra à Huck le dernier bout de mèche de chandelle adhérant encore à un bloc de terre glaise sur une aspérité du mur, et il décrivit comment Becky et lui avaient vu mourir la flamme. Impressionnés par l'obscurité relative et par le silence, les enfants avaient baissé la voix et chuchotaient. Ils poursuivirent leur chemin et ne tardèrent pas à arriver à un autre couloir où ils furent arrêtés par le bord de la crevasse qui avait empêché Tom d'aller plus loin. À la lueur de leur chandelle, ils constatèrent que ce n'était pas un précipice, mais une sorte de falaise argileuse de 8 à 10 mètres de haut. Tom chuchota. « Maintenant, Huck, je vais te montrer quelque chose. » Il leva la chandelle. « Regarde dans le coin aussi loin que tu peux. Vois-tu là, sur ce rocher, quelque chose tracé à la suie ? Tom, c'est une croix. Et alors, où est ton numéro 2 ? Sous la croix, hein ? Huck, c'est là que j'ai vu Joe l'Indien passer avec sa chandelle. » Huck regarda un instant la croix et d'une voix tremblante, il dit « Tom, allons-nous-en. » « Eh bien quoi ? Et le trésor ? Tu le laisses tomber ?»« Oui, laisse-le. Le fantôme de Joe l'Indien doit rôder par ici, c'est sûr. »« Mais non, Huck, il reste à l'endroit où il est mort, à 8 kilomètres d'ici. » »«
Non, mon vieux Tom, non. Il rôde près de son trésor. Je sais bien comment ils font les fantômes. Et toi aussi, tu le sais. »
Tom finit par avoir des doutes. Peut-être Huck avait-il raison. Mais tout à coup, une idée lui vint. Que nous sommes bêtes, Huck. Le fantôme de Joe l'Indien ne se risquera pas à venir là où il y a une croix. L'argument porta. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Cette croix nous porte chance. Allons jusque-là, nous chercherons le coffre. Tom passa le premier. Comme il descendait, ses talons s'imprimèrent dans l'argile du sol. Huck suivit. Dans la petite salle où se trouvait le rocher, débouchaient 4 galeries. L'examen des 3 premières ne donna rien. Dans la 4e, la plus près du rocher, ils découvrirent une sorte de petit réduit dans lequel il y avait une paillasse, des couvertures, une paire de bretelles, des couennes de lard et quelques os de volaille. Mais pas de coffre. Des gamins fouillèrent l'endroit à diverses reprises, mais en vain. Tom déclara. Il a dit « sous la croix ». on ne peut pas être plus sous la croix qu'ici. Ça ne peut pas être sous le rocher, puisque le rocher s'enfonce en terre. Alors, malgré de nouvelles recherches, ils ne trouvèrent rien. Découragés, ils s'assirent. Huck donnait sa langue au chat. Tom réfléchit. Tout à coup, il se leva. « Attends voir. De ce côté-ci, il y a des empreintes de pas et des taches de chandelles. Des autres côtés, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je te parie que l'argent est sous ce rocher. Je vais creuser dans la glaise. » « Ce n'est pas une mauvaise idée, » dit Huck, ragaillardi. Tom sortit son véritable Barlow et creusa. À quelques 10 centimètres de profondeur, la lame entra dans un morceau de bois. « Non mais, tu entends ?» Huck se mit à creuser à son tour. Ils découvrirent quelques planches masquant une excavation naturelle qui passait sous le roc. Tom y descendit. En tenant sa chandelle à bout de bras, il ne pouvait pas voir le fond du trou. Voulant en avoir le cœur net, il se mit à 4 pattes. Le boyau descendait en pente douce, tournant à droite puis à gauche. Tom suivait. Après un coude brusque, Tom s'écria. « Qu'est-ce que tu dis de ça, Huck ?» C'était bel et bien un coffre. À côté, il y avait un petit baril de poudre vide. 2 fusils dans leurs étuis de cuir, 2 ou 3 paires de vieux mocassins, 1 ceinture et quelques autres objets d'équipement détrempés par l'eau de suintement. Le coffre n'était pas fermé. « Enfin, on le tient !» dit Huck, plongeant les mains dans le tas de pièces ternies par l'humidité. « Dis donc, nous voilà riches, mon vieux !»« Huck, je savais que nous finirions par le trouver. »« C'est presque trop beau pour être vrai, mais maintenant nous l'avons, il n'y a pas d'erreur. » Ah ! Il ne s'agit plus de baguenauder. Il faut le sortir. Voyons si on peut soulever cette caisse. La caisse pesait plus de 25 kilos. Tom pouvait la soulever par un coin. Mais quant à la portée, il n'en était pas question. Oh, je m'en doutais, dit Tom. Quand ils l'ont laissée le jour de la maison hantée, ils en avaient plein les bras. Heureusement que j'ai pensé à prendre des sacs. Une fois l'or dans les sacs, des gamins le remontèrent jusqu'à la galerie. « Maintenant les fusils, » dit Huck. « Non, laisse-les là. Nous en aurons besoin quand nous serons brigands. Nous n'avons qu'à les laisser ici. C'est également ici que nous ferons nos orgies. C'est un endroit épatant pour les orgies. »« Qu'est-ce que c'est que ça, des orgies ?»« Je sais pas. Mais les brigands font toujours des orgies. Il faudra bien que nous en fassions aussi. Dis donc, il y a longtemps que nous sommes là. Il doit être tard. » J'ai faim, moi, pas toi. Nous mangerons quand nous serons dans le bateau. Et puis après, on fumera une pipe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils sortirent par le buisson de sumac, regardèrent prudemment de tous côtés, et ayant constaté qu'il n'y avait personne en vue, s'installèrent dans le bateau pour manger et pour fumer. Au coucher du soleil, ils repartirent. Tom suivit la rive, bavardant gaiement avec Huck, tandis que la nuit tombait. Voilà, mon vieux, nous allons cacher le magot dans le grenier au-dessus du bûcher de Madame Douglas. Je reviendrai demain matin et nous compterons pour faire le partage. Après, on cherchera un endroit dans les bois pour le mettre en sûreté. Monte la garde 1 minute. Je vais aller chercher le chariot de Ben. Je reviens tout de suite. Il revenait bientôt avec le chariot, y mettait les 2 sacs, les recouvrait de vieux chiffons et partait en traînant son chargement derrière lui. Arrivés à la hauteur de la maison du Gallois, les 2 enfants se reposèrent. Ils allaient repartir quand le Gallois, sortant de chez lui, aperçut leur silhouette dans l'obscurité. « Qui est là ?»« Huck et Tom Sawyer. »« Parfait. Venez avec moi, les gars. On vous cherche partout. Dépêchons-nous. Je vais tirer votre chariot. »« Oh, mais il est lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des briques ? De la ferraille ?»« De la ferraille, » dit Tom. « Je le pensais bien. » On se donne plus de mal pour ramasser quelques bouts de ferraille qu'on vend 100 sous pour la fonte qu'on ne s'en donnerait pour gagner le double en faisant un travail convenable. Enfin, la nature humaine est ainsi faite. Dépêchons. Les gamins demandèrent pourquoi il fallait tant se presser. Ne vous en faites pas. Vous verrez quand vous serez chez Madame Douglas. Un peu inquiet, car il était de longue date habitué à être injustement accusé de toutes sortes de méfaits, Huck dit « Monsieur Jones, nous n'avons rien fait de mal. » Le Gallois éclata de rire. « Ça, mon garçon, je n'en sais rien. N'es-tu pas en bon terme avec Madame Douglas ?»«
Si, elle a toujours été très gentille pour moi.
Alors, tout va bien. De quoi as-tu peur ?»
Huck n'avait pas encore eu le temps de répondre à cette question qu'il fut poussé en compagnie de Tom dans le salon de Madame Douglas. Monsieur Jones laissa le chariot à la porte et entra à son tour. La pièce était brillamment éclairée et tous les notables du village s'y trouvaient réunis. Les Thatcher, les Harper, les Rogers, Tantpoli, Sid, Mary, le pasteur et bien d'autres, tous sur leur 31. Madame Douglas reçut les enfants aussi cordialement qu'on peut le faire quand on se trouve en présence de deux garnements couverts de terre glaise et de taches de chandelle. Tante Polly, rouge de honte, fronçait le sourcil et regardait Tom d'un œil furibond. Personne, toutefois, n'était dans ses petits souliers autant que les deux enfants. Monsieur Jones dit « Tom n'était pas à la maison et j'allais renoncer à le chercher quand, en sortant à l'instant, j'ai trouvé Tom et Huck devant ma porte. Je vous les ai aussitôt amenés. Et vous avez bien fait, dit la veuve. Venez, mes enfants. » Elle les fit monter dans une chambre et leur dit « Vous allez vous laver et vous habiller. Il y a là tout ce qu'il faut, chemises, chaussettes et complets. Les deux sont à Huck. Non, pas de remerciements, mon petit. Monsieur Jones en a donné l'un et moi l'autre. Mais ils iront à Tom aussi bien qu'à Huck. Habillez-vous, nous vous attendons. Descendez aussitôt que vous serez prêts. » Et Madame Douglas descendit rejoindre ses invités.